Le LEM, c'est votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Aujourd'hui, on vous propose une petite balade avec un arrêt au stand du Pinstriper Fastlane à Dinéol. On va parler de peinture fine, de carrosserie et aussi d'histoire américaine.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, votre quotidienne sur le 100.4 FM de Transistor. Nous diffusons depuis nos studios du Fou de midi à midi et demi. Et puis ce soir, comme d'hab, c'est la rediffusion à 18h. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des contenus de la radio. Bien sûr, c'est sur le site internet à transistor.bzh et ça, c'est pour l'éternité. On aime bien l'art, hein, son histoire et ses techniques ici à Transistor. On aime aussi vous parler de choses, de métiers qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et quand les deux se croisent, ça devient vraiment passionnant. Alors aujourd'hui dans LEM, je vais vous parler de ma rencontre avec un pinstriper. C'est aussi le seul qui exerce ce métier en Bretagne. Il fait partie de la petite dizaine d'artistes qui exercent ce talent en France. Et nous sommes allés dans son atelier à Dinéol. Bonjour Nico.
Bonjour.
Bon, comment ça va ?
Ben ça va bien.
Alors on est dans l'atelier de Fastlane à Dinéol. Merci beaucoup déjà de recevoir la radio. J'ai un petit peu regardé des petits reportages sur le pinstrip, on n'en trouve pas beaucoup, j'avoue, c'est souvent des reportages américains. Et je me suis demandé, moi, à quoi pouvait bien ressembler votre atelier. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu le décrire ?
Alors mon atelier, il est assez petit. Parce qu'en fait, ce que je réalise dans cette pièce, parce que c'est notre maison d'amis qui est devenue un peu showroom, accueil du client et en même temps petit atelier, quoi. Alors c'est des petites pièces dans le sens où est-ce que quand j'ai besoin de peindre sur des voitures ou sur des panneaux un peu plus grands, je me débrouille ou d'aller chez le client ou alors de faire ça dehors, voilà. Donc c'est pour ça que ce petit atelier est, c'est vraiment un petit cocon, c'est mon petit endroit où c'est que je fais mes pièces, par exemple comme des planches de skate ou des réservoirs ou des casques.
Pour bien comprendre le pinstriping, il faut d'abord passer par une case, c'est la case de la custom culture. Ça s'écrit avec deux K. Et oui. Ça veut dire quoi, custom culture, en français déjà ?
Ah, la custom culture, c'est une vague, c'est un état d'esprit, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe le skate, ça regroupe le surf, ça regroupe les hot rods, ça regroupe la peinture, la transformation. La custom culture, c'est beaucoup de choses à la fois, et c'est vraiment des codes assez marqués, quoi. Alors ça vient à la base de... Au niveau de la peinture, je parle, moi, c'est à la base de pinstrippers et de gens qui ont commencé à transformer leur véhicule. Par exemple, ça vient de Ed Ross, Big Daddy, ça vient de Von Dutch, ça vient de pinstrippers, de gens qui sont partis à commencer à prendre leur pinceau et à commencer à faire des lignes et à créer la custom culture, en fait.
Donc c'est ça, la base même du pinstripping, c'est, en gros, c'est l'art de tirer un trait.
Alors à la base,
on peut dire ça comme ça ?
Oui, on peut dire ça.
Alors pourquoi on fait des lignes sur des véhicules, sur des objets ?
Alors
c'est quoi le but ?
Alors les lignes, c'est pour customiser, c'est pour personnaliser surtout. C'est vraiment de la personnalisation d'objets, de véhicules, de casques, c'est vraiment pour avoir quelque chose de perso, une décoration personnalisée. Qui vraiment fait partie de cette culture. En fait.
Tout ça vient des États-Unis, hein, cette culture-là. Hein.
C'était quand vient d'ailleurs des États-Unis. Alors, on peut associer ça aussi au fait que ça part plutôt des années 50, où l'histoire des hot rods, l'histoire des jeunes un peu qui aimaient customiser leur véhicule, qui n'avaient pas trop d'argent et qui commençaient à créer vraiment des trucs perso pour eux, quoi, et qui commençaient à peindre comme ça leur voiture.
Ouais, on dit quoi ? On dit peindre, on dit dessiner, on dit pinstriper.
Alors, pinstripé, oui, ça se dit.
Ça
oui.
se dit
Oui, ça se dit. Après, oui, c'est peindre, ouais, c'est de la peinture, oui.
Il y a quoi d'autre comme discipline, du coup, dans la custom culture, mis à part la peinture? Qu'est-ce qu'on peut retrouver
C'est surtout de la transformation de véhicules. Après, c'est un style de... Oui, c'est un style de vie.
Quand on dit style de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon de s'habiller, une façon de se coiffer. Peut-être même, ça regroupe peut-être de la musique.
Oui, alors voilà, oui, il y a de la musique qui va avec. Bon, après, c'est pas... Enfin, c'est dur à expliquer comme quoi.
c'est vrai, c'est si compliqué que ça?
Non, c'est pas compliqué, c'est...
C'est pour mettre des mots dessus, quoi, c'est ça?
C'est une culture et une sous-culture.
Il y a un sentiment de liberté qui vient de... qui émane un petit peu de cette culture-là, le fait d'aimer... faire ce qu'on veut sur...
Pour expliquer un petit peu ça, par exemple, on va parler du Radfink. Le Radfink, c'est vraiment une figure iconique de la custom culture. C'est un rat vert, un peu crado, qui a des mouches autour, et c'est l'anti-Mickey. C'est-à-dire que le Mickey, c'est la petite souris gentille, le Radfink, c'est le rat un peu dégueulasse, un peu anti-culture, vraiment, qui a été créé par Ed Ross. Ed Ross, qu'on appelait Big Daddy, qui était vraiment une figure de la custom culture au niveau de la personnalisation, du pinstriping et tout ça.
Est-ce qu'il y a d'autres modèles récurrents, des choses qu'on peut trouver qui rappellent tout de suite ce travail du pinstrip?
Alors oui, il y a le Flaming, par exemple. Le flaming, c'est vraiment l'art de faire des lignes en forme de flamme. Donc ça se faisait beaucoup sur les hot rods et ça se fait encore d'ailleurs. Ça revient un peu à la mode. Enfin, c'est plus vraiment une mode, mais c'est vraiment ça revient de tendance, on va dire, dans le pinstriping.
Ouais.
Et oui, alors il y a ça, il y a
quand même un certain lien. J'ai l'impression avec un petit peu avec le tatouage. Ça fait partie de la même. De la même chose, le tatouage fait partie de la custom culture?
Ça fait partie de la custom culture, ça c'est clair, mais au niveau réalisation, ça n'a rien à voir.
Mais par contre, la formation en tatouage, c'est pareil, elle n'existe pas.
En fait, il n'y a pas d'école pour le pinstriping, c'est vraiment des autodidactes.
Tous à chaque fois?
Tous. Il n'y a pas de, y a personne qui va vous apprendre le pinstriping. Moi, j'ai appris ça avec ma culture, la culture que mes parents m'ont un petit peu appris, c'est-à-dire que à regarder des magazines avec des vieilles américaines, à avoir une petite culture moto, à avoir cette envie de personnaliser ces objets. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un vélo que j'avais transformé en chopper à 12 ans, quoi. Je coupe la fourche de mon bicross et puis j'ai dit à mon père, tu peux me souder un tube de 20 cm de long. Et là, il devient fou, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis, mais je veux un chopper. Voilà. Ça commence comme ça.
C'est vrai, ça commence vraiment comme ça. Et votre papa et votre maman étaient artistes aussi?
Alors, ils étaient bons en dessin. Mon père était plus dessin technique, ma mère est plus dessin artistique. Donc, je pense que j'ai hérité un petit peu des deux. Oui.
Donc, ça fait super longtemps. Je ne dis pas que vous êtes vieux, hein, mais ça fait super longtemps que vous touchez à la custom culture, en fait.
Bah, sans le vouloir, oui, quelque part. Après, faut pas se leurrer, quand on peint ou quand on fait vraiment, qu'on commence à faire du pinstriping ou quoi que ce soit, la base, faut être quand même bon au dessin, faut avoir la proportion dans l'œil. Ça, c'est vraiment la base de tout.
Alors, on parle justement un petit peu du matériel. Là, on est dans l'atelier, on voit des pinceaux, on pourra peut-être aller en chercher un ou deux, histoire de me montrer, quoi, peut-être du matériel vraiment spécifique au pinstrip. C'est quoi le matériel de base, déjà?
Alors le matériel de base, ben c'est déjà la peinture. Donc la peinture, c'est une peinture américaine. Moi, je travaille avec la One Shot.
Qui est la plus connue?
Qui est la plus connue. J'ai découvert cette peinture-là quand j'ai passé mon diplôme de peintre en lettres. C'est une peinture à haut pouvoir couvrant. Et, comme son nom l'indique, One Shot, normalement, n'a pas besoin de deuxième couche. Premier trait, ça couvre direct.
Alors qu'est-ce qui fait qu'elle marche vraiment
très
bien?
C'est au niveau des pigments, c'est au niveau de la composition elle-même, de la peinture elle-même, ouais. En fait.
C'est des tout petits pots, hein, je les vois, ils sont là-bas.
Alors c'est des petits pots, oui, ça se vend pas par gros pots. Ça coûte assez cher, c'est assez difficile de s'en procurer parce que bon bah forcément c'est en rupture, il y a qu'un seul importateur par pays. Donc moi bon je vais un petit peu en France, en Belgique, en Espagne pour me fournir de cette peinture, quoi.
Ouais.
Après il existe d'autres marques, mais moi je reviens toujours à celle-là.
Alors c'est quoi? C'est une peinture à base d'essence, d'huile?
C'est une peinture, le liant c'est du white spirit en fait.
D'accord.
C'est une laque. C'est une laque américaine. Ouais.
Une laque américaine, d'accord. C'est assez épais comme peinture, c'est fluide.
Fluide. Après, c'est pour la travailler justement, faut la diluer, faut savoir la diluer à la bonne consistance. Voilà, pour pouvoir travailler avec les pinceaux. Ouais.
D'accord. Et c'est, alors au niveau du, on peut parler du prix ou c'est un truc un peu tabou, quoi?
Alors le prix, c'est environ le petit pot, c'est environ dans les 20-30 euros suivant la taxe que vous avez sur quel pays on l'achète.
Suivant les pigments, peut-être aussi. Il y a peut-être des pigments qui sont plus chers que d'autres. Le rouge, peut-être.
Pas beaucoup. Ça se joue à quelques euros près.
Ah ouais.
Pas vraiment.
D'accord.
Ça qui rentre en compte.
Et avec un petit pot comme ça, on peut faire beaucoup de trucs.
Beaucoup de choses, oui, c'est sûr.
Ouais. On peut faire quelques mètres linéaires, quelques kilomètres peut-être.
Ah bah oui, si c'est des lignes fines qui font 2 mm, oui, c'est sûr qu'on peut aller très très loin.
Donc le fabricant, c'est qui? C'est un fabricant américain aussi?
C'est un fabricant américain, oui, j'ai pas trop d'infos là-dessus.
Ouais, on arrive à trouver autre chose que des produits américains. Il y a peut-être des produits peut-être meilleurs marché, des produits européens. Ça existe, ça?
Européen, non, j'en connais pas.
Et au niveau des pinceaux?
Le pinceau, c'est un MAC. C'est le pinceau le plus connu du pinstriping. C'est vraiment ce qu'on appelle des pinceaux à ligne. Oui, c'est vrai. C'est le pinceau qu'on pose et qu'on tire, en fait.
Ils ont une spécificité, quand même, par rapport à...
Alors, il y a deux trucs différents. C'est-à-dire qu'il y a le pinceau en lettres. Le pinceau à lettres, en fait, c'est un pinceau plat qui permet de faire des angles, qui permet de faire des beaux aplats. Ce pinceau, il est assez carré, il est coupé angle droit, voilà, et c'est du poil de martre. Dans le poil de martre, ça n'existe plus, maintenant ça a été remplacé par du synthétique, qui est un petit peu moins bon, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que moi, mes pinceaux qui ont plus de 30 ans, je les graisse, je les entretiens et ils se gardent à vie, en fait, voilà. Après, le pinceau de pinstriping, il y a plusieurs pinceaux qui existent. Il y a justement le MAC le plus connu, le MAC le 000, c'est-à-dire que c'est un pinceau en poil d'écureuil.
Ouais.
Voilà, après, il y a du poil de renard, il y a beaucoup de poils, et après, il y a du synthétique. Il y a des pinceaux synthétiques qui sont pas mal. Après, ça dépend de la longueur du pinceau, ça dépend de la souplesse, de la charge qu'il peut avoir, c'est-à-dire de la réserve. Pour pouvoir tirer un trait assez long, ben, faut charger assez son pinceau pour pouvoir étaler la peinture assez longtemps, pour pouvoir faire une grande ligne sans avoir besoin de reprendre. Alors, il y a le pinceau de pinstriping pur, c'est le pinceau un peu coupé en couteau. C'est un pinceau...
Il y a beaucoup des pinceaux là quand même, voilà.
Cette forme là coupé en couteau, alors ça se graisse bien en fait à chaque fin d'utilisation. Moi, je prends de la graisse comme de la graisse à roulement et je graisse le pinceau pour que les poils restent bien dans le bon sens pour que ça soit un pinceau qui part pas dans
le
sens. Après,
c'est vrai que ça ressemble d'ici à un couteau et avec une lame brun hyper foncé.
C'est ça.
Et c'est rigolo. On dirait une petite opinelle, machette.
C'est tout petit, en fait. Le manche fait 5 cm de long.
Ouais.
Et la virole, c'est-à-dire que la virole, en fait, c'est ce qui tient les poils. Ça fait 1,5 cm. Et après, on a les poils qui font à peu près 5 cm. Donc, c'est un truc qui fait 11 cm de long maximum.
C'est des pinceaux qui sont faits à la main, ça? Ou c'est des pinceaux qui sont faits à l'échelle industrielle?
Ceux-là sont faits à la main.
D'accord.
Ouais, les Macs sont faits à la main. Ouais. Enfin, le Mac. 000, on va dire. Après, il y a les pinceaux de scrolling, ce qu'on appelle de scrolling, c'est-à-dire ceux qui servent à faire des volutes, c'est-à-dire des ronds et comment dire des lignes, des courbes, en fait.
Ça s'appelle des volutes, faire des courbes.
C'est un peu, il n'y a pas vraiment de nom, mais en fait, aux États-Unis, oui, c'est c'est du scrolling, en fait.
Ok, du scrolling.
Voilà.
Okay.
Ce pinceau de scrolling, c'est pareil, sauf qu'il est beaucoup plus petit, les poils sont un peu plus courts et moins coupés en couteau. Après, on a plein d'autres pinceaux qui servent à faire pas forcément du pinstriping, mais aussi du lettering et des choses comme des petits contours de lettres, par exemple. Voilà. Ce qui est très pinstriping, c'est le contour de lettres.
Ah, c'est ce qu'on voit sur le casque qui est derrière moi, là, c'est ça? C'est la marque noire qui.
Voilà,
entre ça. Le rouge et.
Le pinstriping, c'est beaucoup de contours, beaucoup de choses qui font ressortir les lettres, ressortir les graphismes. Il y a aussi du dégradé.
Il y a aussi du dégradé? Ouais.
Oui, en fait, du fondu. C'est-à-dire que, bon, on mélange plusieurs couleurs pour faire un fondu, un dégradé, ouais. Un peu comme une aquarelle.
Alors parce qu'au départ, c'était vraiment que ça, c'était vraiment que de la peinture en pinceau à main levée. Est-ce qu'il y a eu, depuis le temps, donc depuis les années 50, 30, 50, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu un gap technologique, on va dire,
pour, au niveau des pinceaux, pas beaucoup.
Alors, mis à part qu'ils sont synthétiques maintenant, mais au niveau des réalisations, je vois par exemple, derrière là,
On a une superbe comment on appelle ça, une plaque, un panneau.
C'est une enseigne.
C'est
une pré-enseigne, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand ça fait 1 mètre sur 1,50 m, c'est une pré-enseigne.
Alors, de ce qu'on voit ici, on a l'impression qu'elle a 800 ans, qu'elle est naturellement rouillée. Ça sent quand même l'aérographe, là. Il y a de l'aérographe ?
Il n'y a aucun aérographe, en fait. C'est vraiment que du pinceau, c'est que du poché, ce qu'on appelle du poché, c'est-à-dire on tapote le pinceau pour faire un effet de dégradé qui vraiment se rapproche de l'aérographe, mais ouais. Elle est entièrement faite au pinceau.
Franchement, j'y ai cru.
Oui, ça donne l'effet, oui. Souvent, les gens sont un petit peu trompés là-dessus. En fait, cette enseigne, c'est tiré d'une photo d'une vieille enseigne de gasoline américaine qui ouais. était complètement broyée. Et d'après cette photo-là, j'ai refait l'identique à la rouille près et vraiment à la patine de cette enseigne, entièrement cette enseigne de high speed gas, en fait.
Parce que c'est presque carrément du trompe-l'œil. C'est peint
sur une plaque en alu. Donc la plaque ne vieillira comme ça.
D'accord.
Donc vraiment, oui, c'est vrai, ça fait partie du trompe-l'œil, en fait, quelque part.
Alors, est-ce que des techniques comme l'aérographe, c'est pratiqué quand même dans le pinstrip ou pas?
Oui, il y a le mélange entre aérographe et pinstripping, oui, ça existe. Ouais. Par exemple, le pinceau de scrolling, c'est pas si vieux que ça. Ça n'existait pas avant. Le scrolling permet de faire vraiment des petites lignes pas très longues, mais assez courbes, et c'est très maniable.
C'est quoi la technique de base?
La technique de base, au niveau de l'application de cette peinture, c'est déjà savoir trouver la bonne dilution pour pouvoir se servir du pinceau adéquat. Après, moi, j'ai une formation de peintre en lettres, donc ça m'aide. Et après, le deuxième truc, c'est de savoir positionner son pinceau et surtout d'avoir un support avec son doigt. Donc c'est pour ça que le peintre en lettres te sert beaucoup de son petit doigt, en fait, de l'auriculaire. C'est le support pour tenir le pinceau, pour pouvoir pas trembler, pour pouvoir faire une belle courbe ou une belle ligne, en fait. Et le pinstripping, c'est pour ça que la base d'avoir été peintre en lettres, ça aide beaucoup. Le pinstripping, on se sert des deux mains. C'est-à-dire qu'on a, les doigts vraiment qui servent de support pour laisser glisser ce pinceau.
Est-ce qu'on peut aussi envisager, par exemple, l'apport d'autres matériaux que de la peinture? Je pense, moi, à du papier d'aluminium, à de la feuille d'or. Est-ce qu'on peut créer des reliefs aussi?
Alors après, oui, on peut se servir, par exemple, au niveau des fonds, pour fabriquer une patine de papier de verre, de chiffon, pour travailler dans ce qu'on appelle dans le mouillé. C'est-à-dire de travailler dans une peinture qui n'est pas encore sèche pour créer des effets. Ça, je m'en sers vraiment pour le fond. Ou alors, une fois que je veux faire une patine, que j'ai terminé ma lettre et que je veux vraiment vieillir ma lettre, oui, j'utilise un peu de chiffon, un peu de teinte pour la patiner, en fait, pour l'user, pour lui donner cet effet de vieille patine, comme si l'enseigne avait plus de 50 ans et qu'elle était restée dehors et qu'elle avait rouillé. Quoi. Voilà.
Alors, il y a des techniques aussi pour peindre des lignes, je pense à l'aimant.
À l'aimant. Alors,
ouais, j'ai vu. Non. Non.
Alors ça, à l'aimant.
Ouais, à l'aimant. Alors apparemment, mode de ce que j'ai vu, des grandes bandes aimantées sur les voitures.
D'accord, ok. Alors ça, c'est plutôt un support.
Je me suis renseigné.
C'est un support pour le doigt que certains utilisent, mais c'est pas très répandu, en fait, parce que le vrai pinstriper n'a pas besoin de ça.
Ouh, alors c'est presque...
Je suis désolé.
je voulais pas vous froisser. Il y a des choses à pas faire.
C'est pas du tout. En fait, quand on va tirer une grande ligne, le doigt, c'est vraiment le support. Donc le doigt doit se caler sur quelque chose qui va éviter de le faire dévier. Donc en mettant cette bande magnétique, ça va aider le doigt à glisser. Après, il y a d'autres techniques, c'est-à-dire que on peut coller une petite bande adhésive, une ligne fine qui est utilisée par les peintres aérographes et les carrossiers pour avoir ce guide. Mais à savoir que le pinceau va passer à 1 mm et ne va jamais toucher cette ligne. C'est pas un pochoir du tout, c'est un guide, en fait. Voilà, donc c'est en fait cette ligne magnétique qui est très peu utilisée quand même, c'est un guide.
Oh, mais ça existe.
Ça existe.
Il faut en parler un petit peu aussi. Mais c'est de la triche.
C'est pas de la triche. c'est comme l'histoire de peindre à main avec le doigt. Et certains peignent des lettres, et même du pinstriping, avec un bâton.
Ouais.
Le bâton en bois avec le petit chiffon au bout.
Oui, ça fait une espèce de...
Voilà. Poser sa main pour éviter poser le doigt, en fait.
Ouais.
Moi, j'étais habitué à poser le doigt, à l'ancienne. C'est vraiment l'appui, c'est vraiment le doigt qui permet de caler. et de, d'être stable pour pouvoir faire une belle ligne ou une belle courbe. Voilà. Bon, après, c'est une autre technique. Il y en a qui disent que c'est une technique anglaise ou américaine, je ne sais pas. Mais c'est la le travail au bâton.
Et c'est quoi, alors, les étapes de la conception d'un pit strip?
Alors,
c'est quoi la première chose qu'on fait?
Alors, ça dépend ce qu'on va faire. Par exemple, si on fait le pinstriping traditionnel sur un casque ou sur un réservoir, souvent, c'est vraiment très symétrique. C'est de la symétrie pure, en fait. Donc, le premier truc, c'est le trait au crayon gras. Les petits traits qui vont s'effacer, c'est un crayon qui s'efface à l'eau, au milieu de la pièce. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est quand on va peindre sur la gauche, quand on est droitier, un motif qui va être répété sur la droite, forcément. Plus facile de commencer sur la gauche, sinon on va pas voir ce qu'on fait avec sa main. Donc la base de tout, c'est vraiment tracer un trait avec le milieu. Et après, quelques repères, il y en a qui font des quadrillages complets, et après c'est suivant comment on arrive à manier son pinceau, en fait.
Est-ce qu'on utilise un stencil? Alors le stencil,
c'est quoi déjà? Ça s'appelle un poncif dans notre métier.
Ah pardon.
Alors, le poncif, en fait, c'est un tracé qui a été perforé par une petite roulette à trous, et ce qui permet justement, après, avec un petit tampon et de la poudre, de pouvoir déposer des petits trous, des petites marques en pointillés qui vont s'effacer très facilement, et ça s'appelle vraiment le poncif. Donc ça, c'est utilisé beaucoup pour la peinture en lettres, pour le pinstriping, beaucoup moins.
Pour les motifs aussi, j'imagine, quand on dessine une Betty Boop, par exemple. On utilise ce genre de
procédé? Non, parce que alors pas forcément. Moi, je fais mes tracés directement sur place, sur le support. En fait.
D'accord.
Voilà.
Donc, une fois qu'on a fait le tracé sur le support, qu'on a fait en gros l'ébauche, c'est ça, hein,
les premières masses, on va dire.
Et après, on attaque directement au pinceau.
On attaque directement au pinceau.
Ouais. Voilà. Et ça prend combien de temps pour faire un casque comme celui-là, alors, par exemple?
Ça dépend de la complexité du motif. Ça prend quelques heures quand même. Ça prend 2-3 heures. Ça dépend vraiment la complexité, les détails, le nombre de couleurs et tout ça.
Et comment on budgétise ça?
Alors, c'est pas facile. C'est vraiment la question difficile. Par exemple, quand je fais une planche de skate où j'ai l'habitude de peindre des américaines, des vieilles américaines, parce que ça s'y prête bien, dans le sens où la vieille américaine, elle est assez plate et assez longue, ça tombe bien au niveau proportion sur une planche de skate. Par exemple, quand je passe une dizaine d'heures de travail, ben, je ne peux pas facturer à 50€ de l'heure ma planche. Donc ça calcule un prix dans les 300€. Quoi. On arrive à essayer de mettre une fourchette de prix, mais c'est vraiment les tarifs, comme ça, les prix, c'est vraiment le point noir. Quoi. C'est très dur à déterminer. Quoi.
Vous avez besoin de quoi, en fait, pour pouvoir construire justement un pinstrip au niveau de la personne qui arrive avec un casque de moto, par exemple? Quelle question vous lui posez pour pouvoir essayer d'affiner justement ce budget?
Alors, c'est pas facile, justement. Alors, déjà, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Donc, c'est pas facile avec les gens qu'ils arrivent à expliquer ce qu'ils veulent. Carrément, moi, je leur dis d'aller sur Pinterest et d'aller choper des idées, de me dire, voilà, j'aime bien ce style-là, j'aime bien ça. Après, je vais m'en inspirer, je vais leur créer un truc vraiment personnel. Mais c'est sûr que il faut réussir à comprendre vraiment ce que veut le client. Et c'est pas facile, des fois. Moi, j'aime bien avoir des objets qui ont un vécu. C'est-à-dire, j'aime bien avoir une vieille boîte à outils qui a un petit peu de rouille, qui a un petit peu de patine. Moi, je la stabilise avec un vernis spécifique, en fait, qui évite que la rouille continue à se propager pour pouvoir peindre dessus. J'aime bien une vieille clé, j'aime bien faire cet esprit patiné, voilà.
Comme ça, là.
Alors, comme la chaise, par exemple, ou est-ce que vraiment... La chaise, à la base, elle est neuve, et donc je lui ai fait un aspect rouille, comme si elle était toute patinée, toute usée par le fait d'avoir servi, quoi. Alors, des fois, il y a des trucs vraiment touchants. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais fait un casque pour l'équipe de football américain de Quimper, et il y a une personne qui m'a contacté en me disant, bon voilà, mon père est décédé, est-ce que c'est possible de mettre le numéro sur ce casque qu'avait mon père, et de marquer son petit pseudo dessus. Donc ça a été assez émouvant à faire, parce que la personne est venue chercher, et donc là, vraiment, c'était vraiment un casque personnalisé pour la mémoire de son père. Après, ce que j'essaye de choper, c'est vraiment un truc qui aille avec... J'essaie d'orienter les gens, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est pas facile, parce que quand il y a une personne qui vient me voir et qui me dit voilà, je veux quelque chose sur ma moto qui se voit mais qui se voit pas trop, il faut trouver vraiment le motif et la teinte vraiment qui va le satisfaire, quoi. Mais généralement j'arrive à trouver, je me plante rarement.
Donc
j'arrive à saisir vraiment ce que les gens ont dans la tête, quoi.
Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez?
Il y a des choses que je peux refuser.
Ah oui,
il y a
une bande de rire derrière.
Il y a des choses que je peux refuser, oui, par rapport à des thèmes qui me plaisent pas. Alors, je peux refuser quelqu'un qui vient et qui me demande dans le dos de son blouson.
Incroyable.
Exactement, carrément. Ouais. Carrément. Par exemple, le week-end dernier, il y a un gars qui vient avec son petit casque en fibre style chicanos américain, et ils font des petites répliques de casque un peu allemand au niveau de la découpe. Et là, il vient avec son casque noir mat et il me dit « je veux la tête de mort des SS quoi, sur le côté ». Ça, je le ferai pas. Je ferai pas parce que c'est pas, ça se fait pas déjà, et puis j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Alors moi, ce que je lui ai proposé, parce que je suis sympa comme gars, je lui dis on peut dévier, on peut faire un truc marrant avec ça. C'est-à-dire que moi je veux bien faire une tête de mort, mais ça sera la tête de mort de Mickey. Ça va être un truc un peu rigolo. C'est-à-dire que on va arrêter les clichés des gens qui aiment bien les croix gammées ou les trucs comme ça. Moi je veux si je fais quelque chose, c'est un truc marrant. C'est pas un truc Enfin, je veux pas faire ça, quoi. Je veux pas aller de ce côté-là.
Merci, Nico.
Merci.